Bonjour bien-aimés. Soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout, nous allons présenter ce moment. Merci Dieu notre Père encore pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous réunir ce matin dans ce lieu pour te louer, pour t'adorer. Merci pour ce privilège que tu nous fais. Et en disant cela, nous pensons à nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui se cachent pour te prier, pour te louer. Merci là encore de continuer à leur faire grâce. Que tu puisses bénir ces instants que nous passons, tous ces moments, tout ce que nous voulons t'offrir. Parce que nous voulons vraiment t'offrir le meilleur de tout ce que nous avons. Alors, prends plaisir à cette louange, cette adoration, ces prières que nous voulons t'adresser. Que tu sois loué. Adoré au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la continuité suite à notre semaine pascale. Et si nous sommes ici en ce matin, c'est vraiment parce que Jésus-Christ, il est Seigneur, il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Et vraiment, nous voulons chanter ce tout premier chant, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, la mort n'a pas pu le retenir. Il était dans le tombeau, mais il en est sorti. Et c'est pour cela que nous pouvons nous réunir en ce matin. C'est pour cela que notre présence en ce matin fait sens et que nous pouvons vraiment chanter « Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau. » Amen.
Son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais c'était
résonne la puissance concert.
Jésus-Christ est Seigneur. Faisons monter notre adoration à Dieu. Amen. Nous devons vraiment la gloire à Dieu, car il est vraiment Seigneur. J'ai cherché, fouillé, tourné. On n'a rien trouvé. Sinon, Dieu, le Seigneur. Nous allons prendre un chant. Il n'était pas du tout prévu. On va le prendre en direct. Les paroles ne seront pas affichées parce qu'on n'a pas trouvé les bonnes paroles. Mais je pense que nous connaissons le chant. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Tout le monde le connaît, je pense. Amen. Il n'y a vraiment, vraiment personne. On a cherché, on a fouillé, on a tourné sur Mars, au fond de la Terre. Personne comme Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Les éléments vont circuler pour la scène. Pendant que les éléments circulent, si vous voulez faire monter encore vers Dieu vos prières, votre adoration, priez Dieu. Amen. Nous faisons la lecture dans le livre de 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26, où il est dit ceci. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, il a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Othniel, tu priais pour le pain, s'il te plaît. Amen. Mangeons ensemble. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je demanderai à notre frère Harry si tu veux prier pour la coupe, s'il te plaît. Amen. Buvons ensemble. Plus nous avançons, plus nous voyons que tout est fait pour minimiser l'existence de Jésus. Tout est fait pour dire que non, nous n'avons pas besoin de Dieu, pas besoin de Jésus. Nous nous suffisons à nous-mêmes. Mais non, ce matin, nous voulons dire, je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour chacun de nous. Je vous invite à chanter ce chant. Je crois en Jésus. Et nous savons que de ce fait, nous n'avons plus rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre.
Entre ses mains.
pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Nous nous sommes peut-être posé la question, comment se fait-il que dans certains cas, il y a des choses qui sont établies, par exemple comme la fête de Pâques, que l'on retrouve dans la Bible, qui est écrite dans la Bible. Comment se fait-il qu'avec le temps, on se retrouve à associer cette fête à des œufs, à des chocolats? Et malheureusement, même chez certains chrétiens, on peut fêter avec des chocolats, avec différentes choses. Et il y a tout plein de choses comme ça, on ne va pas faire toute la liste, mais il y a des choses comme ça. Et on peut se dire qu'en côtoyant, en fréquentant certains milieux, au début ça peut choquer, mais à la longue on s'habitue. C'est comme la grenouille dans l'eau froide, on la chauffe, elle reste, elle bouge pas. Nous aussi, on peut très bien être pareil malheureusement. C'est pour cela que Dieu, à plusieurs reprises, il a dit à son peuple de ne pas fréquenter tel peuple. N'imitez pas, ne prenez pas, ne faites pas. Il est même dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous voyons qu'il y a des choses, par exemple, nous savons, c'est Jésus qui est allé sur la croix, il n'y a personne d'autre qui est allé sur la croix. Nous savons qu'il y a un seul médiateur. Mais pour chaque profession, il y a un saint. Pour les taxis, pour la pêche, pour ça. Il y a saint ceci, saint cela. Quand vous avez des problèmes, il y a même 5 millions. Donc voilà, donc vous avez des saints pour tout le monde. Là, nous savons que c'est Dieu, c'est que Dieu. Donc si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui a été annoncé, qu'il soit anathème. Nous ne croyons qu'en Jésus et rien qu'en Jésus. Si un ange.
Si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, je lui dirais arrière d'ici. Ouh, oui, moi je sais en qui j'ai cru, car lui je l'ai connu. We
es notre Dieu. Nous avons l'assurance. Ton corps, il n'a pas connaître la corruption. Merci. Merci pour cette grâce, Seigneur, imméritée. Merci parce que ce matin, Seigneur, nous pouvons dire merci pour ton amour. Tu as versé, Seigneur, sur la terre pour nous sauver. Ce matin, nous pouvons dire ton amour, il nous presse. Pour dire, Seigneur, nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés les premiers. Merci pour ta miséricorde parce que tu es un Dieu riche en miséricorde. Un Dieu qui riche en sagesse. Alléluia. Béni soit-il. Béni soit l'Église, Seigneur, pour que toute l'Église embrasée par ton esprit, pour te remercier pour cette reconnaissance, parce que tu n'es pas obligé d'aller sur la croix, parce que tu es Dieu, tu étais sans péché, sans tâche, tu étais l'agneau sans défaut, mais c'est notre défaut, c'est notre misère, c'est notre maladie qui a porté sur la croix. Ce matin, tu étais ressuscité, tu es vivant, tu as le pouvoir pour nous guérir si nous sommes malades, tu as le pouvoir pour nous ouvrir les yeux si nous sommes aveugles. Tu as le pouvoir pour nous faire marcher si nous avons du mal à marcher. Dieu, tu ne changes pas. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. À toi la gloire de l'Église. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci Seigneur, nous savons qui nous avons.
Alléluia.
Celui qui est mort.
Nous voulons, cet instant, Dieu notre Père, nous disposer à écouter ta parole, uniquement ta parole. Parce que c'est elle qui nous donne la vie. Par elle, tu nous parles. Par elle, tu nous exhortes. Par elle, tu nous encourages. Alors donne les paroles à ton serviteur que tu as choisi en ce matin, afin qu'il puisse nous parler de ta part. Merci encore de le bénir, de le fortifier, de le renouveler. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
Bonjour, bien-aimés. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce, car tout est grâce, n'est-ce pas? On se couche et on est sûr de se lever le lendemain matin, mais on n'en sait rien en fait. C'est la grâce de Dieu qui nous donne de nous lever le lendemain matin. Parce que n'est-ce pas que le sommeil est comme une mort? Parce que quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. C'est un état. C'est pour ça que dans la Bible, le terme mort est aussi défini par le terme sommeil. Parce que la mort est un sommeil, en fait. Mais un sommeil dont on se réveille soit de l'un côté, soit de l'autre côté. Mais tant que nous sommes en vie, le sommeil est cette partie de notre existence où nous sommes conscients de rien pendant 6, 7 ou 8 heures. Et nous nous réveillons après. Et nous voyons à nouveau le jour. Ne serait-ce que ce mystère doit faire dire aux hommes qu'on n'est pas maître de nous-mêmes. Parce qu'au moment où on se couche, on est parti quelque part, n'est-ce pas? Et il faut savoir que dans le monde, il y a des gens qui ont des maladies de sommeil, qui n'arrivent pas à dormir. On est obligé de le shooter à beaucoup de médicaments pour qu'il puisse avoir ne serait-ce que quelques heures de sommeil. Donc à chaque fois que nous dormons et que nous nous réveillons, disons merci Seigneur. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas un droit. Parce que de toutes les façons, quand on est ensommeillé, quand on est endormi, on est endormi. Oui, moi je sais en qui j'ai cru, car lui, je l'ai connu. Il est toujours avec moi. Alléluia. Il est toujours avec moi. Et nous voulons bénir Dieu pour cela. Voilà 7 jours que nous avons célébré la Pâque, n'est-ce pas? Et j'aimerais continuer avec un texte qui nous parle du 8e jour après la Pâque. Avec un texte qui lui était avant la Pâque et qui nous interroge. D'après le Fils de Dieu. Avant la Pâque et malgré la Pâque, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est Jésus qui pose cette question. Il la pose dans un épisode qui s'appelle on ne sait pas si c'est une parabole, mais en tout cas, c'est un enseignement qu'il déroule au travers de ce qu'il appelle la veuve et le juge inique. Luc chapitre 18. Où il encourage à la prière persévérante et il prend l'image de cette veuve à qui on a fait une injustice et où il dit que à force de persévérance, cette veuve est arrivée. Reste sur la première diapo, s'il te plaît. Voilà. À force de persévérance, cette veuve finalement a eu gain de cause. Et il dit, il faut persévérer comme cette image de cette veuve et de ce juge qui ne voulait pas lui faire justice, mais à la suite de cet enseignement, de cette parabole, Jésus dit au verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et ma question pour nous, nous avons célébré Pâques avec joie, avec reconnaissance. « Merci Seigneur, oui, moi je sais en qui j'ai cru, car je l'ai connu, il est toujours avec moi. » Et je voulais que nous puissions interroger notre foi pour qu'elle reste vivante, persévérante, actualisée, qu'elle soit en mouvement. Vas-y, s'il te plaît. Colossiens chapitre 2, ce n'est pas le texte que nous allons méditer, mais c'est un texte qui nous parle de ce que nous avons vécu il y a une semaine. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Ce texte nous ramène à la croix. À la croix, à la croix. Car c'est là que Christ a accompli le sacrifice ultime, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Or, Christ a donné sa vie. La vie, le symbole de la vie, c'est le sang en fait. Le sang, quand on dit le sang dans la parole de Dieu, ce n'est pas le liquide rouge, c'est la vie. Parce que la vie est dans le sang. Et à la croix, il a donné sa vie. Sa vie s'est écoulée en lui. Sa vie a été ôtée de lui. Son sang a coulé à la croix. C'est ça l'image. Ce n'est pas qu'il était ensanglanté avec du sang qui coulait comme si c'était un ruisseau. Non, c'est parce que sa vie lui a été ôtée. Mais il dit, on ne me ôte pas la vie, je donne ma vie. Parce qu'il a donné sa vie à la croix. Et ce texte dit, pour nous tous ceux qui sommes passés par le baptême, nous nous sommes identifiés à l'œuvre de Jésus-Christ. Symboliquement, nous avons dit, nous voulons désormais pas vivre comme sans Dieu. Et nous avons accepté de mourir à cette vie sans Dieu. C'est le symbole de la mort à la croix. Et nous avons accepté de ressusciter avec la vie en Dieu. C'est le symbole de la résurrection. C'est pour ça qu'il y a ces deux mouvements dans le baptême. Plonger sous l'eau et ressortir de l'eau. Il dit, c'est dans l'union avec le ressuscité que nous l'avons fait. Par la foi. Et c'est Dieu qui nous a communiqué la puissance du salut. Car le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Pour que personne ne s'en vante. Mais c'est la grâce de Dieu que nous saisissons au moyen de la foi qui est la confiance en lui. Et nous qui étions autrefois morts, parce que c'est vrai, sans Dieu, quelqu'un a dit, nous sommes des morts vivants. Il y a beaucoup de films comme ça assez sombres où on voit des êtres humains qui marchent comme ça, comme des zombies, mais en fait qui ne sont plus là, mais qui marchent quand même. Et un missionnaire a dit, on est un peu tous comme ça. On croit qu'on est vivant, mais l'Apocalypse dit, tu crois que tu es vivant, mais tu es mort. peu importe la qualité de vie sociale que tu as, peu importe le standing de vie que tu n'as pas, que tu sois pauvre ou riche, si tu n'as pas le Christ, la Bible dit, tu es mort en Dieu. Et nous étions morts en Dieu. Ce n'est pas notre condition sociale qui nous donne d'être proche ou loin, non. Le curseur, c'est Jésus. As-tu Jésus dans ta vie ou ne l'as-tu pas? C'est de cette question que dépend notre vie ou notre mort spirituelle. Nous étions tous morts à cause de nos fautes. Et Dieu a fait quoi? Il nous a donné la vie avec le Christ. Car Christ a dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis la source d'eau vive de laquelle jaillit la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi et Jésus que tu as envoyé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Alléluia. Il nous a donné la vie. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Le brigand à la croix, à ce jour de la résurrection, quand tu seras dans ton paradis, souviens-toi de moi, car je sais que je suis pécheur. Dès ce soir, lui dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Il est celui qui pardonne toutes nos fautes, pourvu que nous reconnaissions que nous sommes pécheurs et que nous ne savons pas plaire à Dieu. Et que nous disions, au secours, Jésus, viens à mon secours. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé l'acte qui établissait notre manquement à l'égard des commandements de Dieu. Oui, nous étions juridiquement condamnés. Dieu, dans son souverain mandat de juge impartial, nous étions condamnés par la justice de Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et ce n'est pas Dieu qui nous a induits en péché. C'est l'homme qui a malheureusement succombé à la tentation depuis Adam et Ève et qui a conduit l'humanité dans cette condamnation. C'est comme si nous étions dans une cour de justice, l'avocat, la défense, les procureurs, et qu'après tout le processus judiciaire, le cachet soit mis sur notre dossier coupable. Et c'est un acte juridique. À la justice, il y a un acte juridique qui est rédigé par les greffiers et qui justifie la condamnation. Et celle-là, elle est placée pour toujours dans ton casier judiciaire. Et c'est pour cela que quand on soumissionne des fois dans des administrations particulières, ou même quand vous voulez être animateur de jeûne, on vous demande votre casier judiciaire. Parce que le casier judiciaire marque toutes les condamnations, ou pas du tout, que vous avez subies. C'est de cet acte-là qu'il parle. Nous avions un casier judiciaire qui marquait coupable, condamné à la mort éternelle. Et Christ, dans sa mort et dans sa résurrection, a annulé cet acte de condamnation. Parce qu'il a fait quoi? Il a pris sur lui notre condamnation. Il n'a pas juste annulé par un effet de son privilège de fils de Dieu. Il a annulé parce qu'il a pris sur lui de subir notre jugement. C'est ce qu'on appelle la substitution pénale. C'est-à-dire qu'il s'est substitué à nous. Il a pris notre place et lui, il a été condamné pour quelque chose que nous devions être condamnés. On dit encore, quelqu'un aurait pu remplacer quelqu'un qui est innocent en disant, franchement, celui-là, il n'a rien fait. Prenez-moi à sa place. Il dit, ce n'est pas le cas. Nous étions coupables. Et pourtant, il a dit, prenez-moi à leur place. Et l'Épître aux Hébreux dit, il dit, qui enverrai-je? Et le Christ dit, envoie-moi en paix pour prendre la place de mes frères et de mes sœurs. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu se substituer à nous. Donc, il a accompli la peine qui nous était due. C'est pour ça qu'en Christ, nous sommes libérés de toutes nos fautes parce qu'il a subi la condamnation, il a payé toute la peine et il a été sorti victorieux de cela. Il a annulé ce manquement à l'égard du commandement. Il a effacé et cet acte s'est passé à la croix. La Bible dit que s'il a été ressuscité par Dieu, c'est parce que d'une part, il a payé notre condamnation, parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais d'autre part, parce que lui-même étant innocent, la mort ne pouvait pas le garder. Parce que comme le salaire du péché, c'est la mort, or, lui, il est sans péché. Donc les trois jours, c'était pour payer notre salaire à nous. Et comme quand il a fini de payer notre salaire du péché, finalement, la mort n'avait rien à lui demander parce que lui, il est sans péché, Dieu l'a ressuscité. Et la résurrection du Christ prouve qu'il était, lui, innocent. C'est ça l'acte de la résurrection, l'innocence du Fils de Dieu. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, tous ceux qui nous condamnaient, qui disaient « c'est pas juste ». La Bible dit que l'ange de lumière, Satan, il sait le privilège qui est accordé aux enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il est descendu avec une ardente colère pour faire quoi ? Pour les égorger, les tuer et pour les empêcher de rentrer dans le royaume de leur Père. Et Christ a retourné ça contre lui, contre ses autorités spirituelles, contre ses pouvoirs spirituels. Il les a livrés en public, en spectacle. Là, c'est l'image des empereurs romains qui, à l'époque des guerres, lorsqu'ils avaient vaincu un ennemi, bah, ils le trimbalaient publiquement devant tout le monde pour dire « je l'ai vaincu ». Il prend tout le monde à témoin qu'il est le victorieux, le triomphateur. Et c'est cette image ici que l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul nous prend. Christ, que ce soit les autorités spirituelles, terrestres, toutes les autorités ont vu, ont été témoins qu'il a vaincu l'ennemi de la foi et qu'il a vaincu la mort. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit « Mort, mort, où est ton aiguillon ?» Car Christ a vaincu la mort. C'est pour ça qu'il peut dire, même quand vous serez ensommeillés, quand vous serez endormis, vous serez vivants. Car moi, j'ai vaincu la mort. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, car la mort m'est un gain. Amen. Voilà ce que nous avons vécu à la Pâque. Et malgré cet événement fort, vas-y s'il te plaît, quelque chose, un épisode un peu difficile va se passer. Nous sommes à peu près 7 jours après. Les disciples ont été visités par Jésus. Il y a eu les femmes qui ont vu Jésus ressuscité. Il y a eu les disciples qui partaient à Emmaüs, qui ont marché avec Jésus ressuscité et qui l'ont vu faire la fraction de pain comme ils savaient faire, qui sont retournés de nuit à Jérusalem pour dire on l'a vu ressuscité. Et Jésus, alors que les disciples sont rassemblés, iront dans cette maison où ils étaient enfermés, apeurés, parce qu'on avait tué leur Seigneur et qu'ils savaient que peut-être leur vie était en danger. Et Jésus ne toque pas à la porte, la Bible dit qu'il traversa le mur. Et il a eu une apparition. Et là, les disciples ont vu ce Jésus avec les marques de sang partout. Ils ont dit, Seigneur, tu es vivant, tu es ressuscité. Et le texte lui dit que Thomas n'était pas présent. On ne sait pas où il était, mais il n'était pas présent. C'est ce qui a donné cette expression assez fameuse dans notre civilisation occidentale. Je suis Saint Thomas. Je ne crois pas sans avoir vu. C'est là que ça vient. C'est l'évangile que ça vient. Jean chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Vas-y. 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Quel épisode. Plusieurs avaient déjà vu le Seigneur ressuscité. T'as 11 amis, enfin t'en as 10, puisque Judas est décédé, s'est suicidé en temps. Donc on suppose que c'est les 10 enfermés, mais on parle plus de disciples, donc peut-être il y a plus de 10, mais qui disent à Thomas, on a vu le Seigneur, il s'est révélé à nous. T'as 10 avec qui t'as marché pendant 3 ans, qui te disent, on l'a vu, il est ressuscité. Et toi Thomas, tu dis, Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans les marques des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Des fois, nos contemporains qui n'ont pas Dieu, peut-être nous avant de connaître le Seigneur, on a aussi formulé des choses comme ça. Moi, il faut que je voie Dieu pour croire. Si je ne vois pas le Dieu dont tu parles, je ne peux pas croire. Et tout le mal qu'il y a dans le monde, si Dieu existe, pourquoi tout ce mal? S'il ne fait pas ci, s'il ne fait pas ça, je ne croirai point. Et des fois, nous-mêmes, en tant que croyants, nous avons des baisses de confiance des fois. Seigneur, si tu ne fais pas, comme s'il était obligé de faire. Et en plus, on articule les choses de façon très... C'est pas possible. C'est-à-dire la façon dont nous prions, des fois, nous trahit. Seigneur, si tu ne fais pas. C'est-à-dire, dans l'expression, elle n'est pas logique. Parce qu'on ne peut pas dire un Seigneur si tu ne fais pas. Parce qu'il est Seigneur, il a toute autorité. Il n'y a pas de condition. C'est pour ça que Jésus a dit plutôt aux disciples, je suis parmi vous comme le maître, mais je vous sais, je suis votre ami. Donc il a atténué la façon de nous adresser à lui. Et que peut-être nous en faisons un peu trop quand même, des fois. Moi j'aime à me dire, c'est Jésus le Fils qui est notre ami, qui est notre frère. Mais Dieu, le Père, il reste le Père éternel et souverain, le grand roi, Seigneur des seigneurs. Duquel nous devons nous approcher avec crainte et tremblement. Ça n'enlève à rien le sentiment d'affection qu'il a pour nous, mais ça nous garde dans notre juste place. Nous sommes sa créature, nous ne sommes pas ses égaux, nous ne sommes pas ses égaux. Il reste le Dieu de l'univers. Alléluia. Avant-hier, je regardais un documentaire, celui-là 5. Et ce documentaire s'intitule Science Grand Format. Et on expliquait comment notre humanité, c'est incroyable. Dieu nous a dotés d'une intelligence incroyable. Moi, je suis fier de l'être humain dans son intelligence, pas dans son péché. Je suis fier de l'être humain dans son intelligence parce que tout ce matériel que nous utilisons, c'est des êtres humains qui l'ont créé. Des frères ne sont pas là, mais peuvent suivre. Parce qu'il y a des êtres humains qui ont dit, comment on va faire pour que si quelqu'un n'est pas là, il puisse quand même être au bénéfice d'une réunion. Et ils ont créé tout ce que nous avons. Donc, c'est bien. Mais ça vient de Dieu. Il ne faut pas croire que ça vient de l'ennemi. Le diable n'est pas créateur de quelque chose, il est création, il est créature et il est le maître du mal. Lui, ce qu'il sait faire, c'est la destruction, c'est le mal. Donc tout ce qui est créé en bien dans la terre des humains, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, ça vient de Dieu. Parfois, on a une mauvaise théologie de Dieu. Tout ce qui est créé en bien vient de Dieu. Que ce soit des incroyants ou des croyants qui les créent, ça vient de Dieu parce que c'est lui qui est le maître de son monde, c'est lui qui a créé son univers. Et la Bible dit qu'il nous a créé à son image, il nous a doté de cette intelligence. Et donc ce documentaire, il met l'accent sur le monde animal, notamment des oiseaux. Et il dit comment les hommes ont réussi à créer l'avion. Déjà, Léonard de Vinci, c'est en regardant tous les êtres ailés, il a observé minutieusement comment tous ces êtres qui ont des ailes qui volent, quel est le principe qui les fait voler? Et c'est comme ça qu'on est arrivé au fil des siècles à créer l'avion.
C'est incroyable. Hein? Et toutes les perfections qu'on a dans l'aérodynamique, on continue de le tirer de l'observation de la nature, notamment des espèces qui volent. Au départ, ce qui m'a fasciné, c'est qu'au départ, on dit que tous les avions avaient des ailes comme ça, toutes plates. Et puis, il y a des scientifiques qui ont regardé des animaux dont les ailes, il y a une partie des ailes qui sont plates et puis d'autres ailes qui sont séparées. Et puis, ils ont dit à quoi ça sert. Puis, ils ont observé, en fait, ça sert à atténuer la dépense d'énergie de l'oiseau. Et du coup, ils ont créé des avions avec des ailes un peu tordues comme ça maintenant. Waouh ! C'est Dieu qui fait tout ça. C'est Dieu qui fait tout ça. C'est de ce Dieu-là dont nous parlons. Ça, ça suffit pour nous donner la confiance en Dieu. Mais malheureusement, on dit, si Dieu existe, pourquoi le mal ? Et on ne voit pas toute l'intelligence et tout le bien qu'il continue d'investir dans l'humanité pour que l'humanité le reconnaisse. Mais on voit plutôt toute la noirceur de nos actes qui nous mènent au mal, mais qu'on veut reprocher à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fait le mal, c'est nous qui faisons le mal. Dieu, lui, ne fait que le bien. Alléluia. Et malgré que ses amis ont dit ça, Thomas est resté dans cette incrédulité. Ce qui me plaît sur le Seigneur Jésus. Jésus, il n'enseigne pas quelque chose qu'il ne fait pas. Il dit, un pasteur, donc il prend l'image pasteur dans le sens de berger, il dit un berger lorsqu'il a 100 brebis et qu'il les compte et qu'il voit qu'il y en a 99 et qu'il y a une qui manque, il fait quoi? Il laisse les 99 en sécurité. Il ne les laisse pas au hasard, hein? Il les laisse en sûreté et il va chercher la seule brebis qui n'est pas encore là. Il va à sa recherche jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Et dans le psaume, c'est lequel? 23, n'est-ce pas? Le petit outil qu'on appelle la houlette. La houlette sert à redresser les récalcitrantes, hein? C'est un coup sur le truc et puis il rentre dans l'ordre. Mais ça sert aussi à le percher des brebis qui se sont escarpées sur une falaise où le berger ne peut pas aller. Il semble qu'il y a un creux comme ça où il peut mettre et tirer la brebis. Et là, à cause de Thomas seul, Jésus revient. 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux. Comment on sait que Jésus est venu pour Thomas? C'est la suite du texte. Quand il vient, il s'adresse à une seule personne, il s'adresse à Thomas. Il est venu pour 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 Thomas. Chacune de nos vies intéresse Dieu. Au-delà du groupe, chacune de nos vies intéresse Dieu. Chaque acte que nous posons, Dieu le voit. Il s'y intéresse. En bien. Pas d'abord en mal, en bien. Il n'a pas regardé ses têtes comme dit, oh Thomas, il est perdu, c'est tant pis, je ne reviens plus. Celui-là, il est... tous ses amis ont dit, il ne croit à rien. Allez. Je scelle son sort. Il ne dit pas ça. Il vient pour restaurer Thomas. Il dit, Thomas, viens, lève-toi. viens. Regarde les plaies. Viens. T'as dit que tu voulais mettre la main dans le clou. Viens, mets la main dedans. Thomas dit non. Il dit, viens, mets la main dedans. Attention, Thomas. Ressaisis-toi, Thomas. Et Thomas dit, mon Seigneur, on dit, c'est la plus grande déclaration. Vas-y, s'il te plaît. C'est la plus grande déclaration. La réponse de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, c'est le point culminant de l'évangile. Il y a un point culminant avant qu'il monte à Jérusalem, c'est la confession de Pierre. Jésus dit, que disent les gens que je suis? Pierre dit, ils disent que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, il dit, et vous? Et Pierre dit quoi? Tu es le Christ, tu es le Messie. Il dit, c'est pas toi, mais c'est mon Père qui te l'a révélé, car c'est ce que je suis. Ok? Et là, Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Non seulement il confirme que Jésus est maître de tout, mais qu'il n'est pas que maître de tout, il est Dieu. Ça culmine. De il y a quelques jours, Jean, si je ne vois pas, je ne croirai point, et cette déclaration, mais Jésus est un enseignant, un pédagogue fin, qui n'est pas là pour cajoler, qui dit la vérité, qui aime et qui dit ce qu'il ne faut pas faire. Et il dit à Thomas, parce que tu as vu, tu as cru, Thomas. Tu aurais dû croire au témoignage de tes comme disciples. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vas-y, s'il te plaît, Jonas. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On voit que dans le récit biblique, on voit l'incrédulité des ennemis de Jésus qui monte, qui monte, qui monte. Et le sommet de cette incrédulité, c'est sa mort à la croix. Ils l'ont crucifié à la croix, c'est le sommet de l'incrédulité du monde qui ne croit pas en lui, qui le crucifie. Inversement, les évangélistes nous montrent comment les disciples ont gravi aussi les paliers de la foi. Même s'ils ont été déstabilisés à la mort de Jésus à la croix, ils n'ont pas pour autant renié leur foi. Ils étaient dans le flou, ils étaient dans l'interrogation. Et Jésus vient pour les rétablir. Et le sommet de ce rétablissement, de cette confiance, c'est quand Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. On voit là que cette réponse est puissante. Jésus vient pour Thomas. Et de façon miraculeuse en plus. Donc Thomas, il n'a plus le choix. La porte est fermée. Et Jésus est au milieu de lui, alors que ses amis lui avaient dit pareil. On était là dans une porte fermée, Jésus est rentré au milieu de nous. Et là, Jésus fait pareil pour que Thomas récapitule le témoignage des 10. Il dit en plus, viens Thomas, c'est pour toi que je suis venu. Il rétablit Thomas. Il demande à Thomas de le toucher, de le toucher. Mais surtout, il lui demande de ne plus être incrédule. L'incrédulité, c'est de chercher toujours des preuves avant de croire. Quand les preuves existent déjà. C'est pas qu'il n'y a pas de preuves. La foi, c'est pas un saut dans le vide. Non, c'est faux. Cette attestation, elle est totalement erronée. Non, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Non, notre foi est appuyée sur le témoignage de Jésus. Un témoignage vérifié, vrai, pertinent, concret, palpable. Parce que les disciples, l'apôtre Jean dit, nous on a vécu avec lui, on a marché avec lui, on a mangé avec lui, on l'a touché, on a été là pendant 3 ans. Et nous vous disons ce que nous avons vu et entendu. Nous sommes des témoins oculaire. Nous ne mentons pas. Et l'apôtre Paul va dire plus tard qu'il s'est révélé aux 12, ensuite à 40 et à 500 personnes cumulées. Il s'est révélé après sa résurrection. 500 personnes avant de monter au ciel. Donc il y a des témoins de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas les disciples qui ont inventé qu'il est ressuscité. C'est faux. Il est ressuscité, il est vivant. C'est vrai. Et en plus, ils l'ont vu monter au ciel. Alléluia. Ce qu'il dit à Thomas, c'est si nous, on ne croit pas et qu'on attend de voir avant de croire, on est comme Thomas. Mais Thomas, lui, il est passé à autre chose. Hein. On n'est pas comme Thomas parce que Thomas a été restauré. Thomas a fini par croire. Donc, si on dit on est comme Thomas, en fait, on se leurre. Parce que le Thomas, avant de dire mon Seigneur, mon Dieu, il n'existe plus. Le seul Thomas qui existe, c'est celui qui a dit mon Seigneur et mon Dieu. Donc, de continuer de manipuler cette expression, moi je suis comme Thomas, c'est une demi-vérité. Parce que ce Thomas, il n'est pas resté dans cette phase de sa vie. Il a fini par croire au Seigneur. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui a dit, désormais, ceux qui veulent dire qu'ils sont des Thomas, se leurrent parce que désormais, tous les Thomas doivent dire, heureux ceux qui ont vu sans avoir, ceux qui ont cru sans avoir vu, mais qui ont cru sur le témoignage des apôtres. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, la résurrection démontre que ce Jésus, ce qu'il avait prédit, s'est manifesté. Prouve que Jésus est le Fils de Dieu. Il a été envoyé de Dieu, justifié par l'Esprit Saint. Témoigne du succès de sa mission. Parce qu'il a été ressuscité, sa mission s'est bien accomplie. Sinon, il ne serait pas ressuscité. Le tout est accompli avant sa mort, a eu tout son sens lors de sa résurrection. Jésus a le droit d'être élevé à une position de gloire. Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parce que d'après l'épître aux Philippiens, c'est qu'on appelle la kénose, l'abaissement total. On dit parce qu'il a obéi jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a ressuscité, mais Dieu n'a pas simplement ressuscité. Dieu lui a donné la place qui est au-dessus de tout, afin que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Christ est Seigneur. Il est le Seigneur de la vie. Et il y a un chant qui dit ça, Seigneur de la vie. Il est le Seigneur de la vie. Il est là pour donner la vie. Il dit, je donne la vie en abondance. Il vient pour donner la vie. Il vient pour donner la vie. Il dit, je ne suis pas venu pour condamner. Je suis venu pour sauver, afin que toutes les brebis de la maison entrent dans la bergerie. Et l'apôtre Pierre va dire, s'il tarde, c'est pour votre salut, car Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus finit par bénir tous ceux qui croiraient sans avoir vu de manifestation visible de sa résurrection corporelle. Verset 26, verset 29, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il établit que sur la base de cet épisode avec Thomas, tous ceux qui ne l'ont pas vu corporellement, mais qui auront cru au témoignage des apôtres, seront bienheureux. Et nous sommes des bienheureux, n'est-ce pas? Nous ne l'avons pas vu visiblement, mais nous l'avons vu spirituellement. Il s'est révélé à nous par son esprit. Il a touché nos cœurs et nous nous sommes donnés à Jésus. Amen. Quelle bénédiction, quelle bénédiction. Alors revenons pour quelques minutes sur ce fameux Luc. Vas-y s'il te plaît. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce n'est pas une question qu'il pose à des incroyants, c'est une question qu'il pose à ceux qui veulent le suivre. Donc c'est une question qu'il pose à des chrétiens. Parce que semble-t-il que les événements de la vie, les circonstances, les situations peuvent nous faire perdre pied. Comme la parabole de cette veuve unique qui avait droit à être rétablie dans la justice et qui était sujet à une injustice. Une injustice qui perdurait, qui tardait à se corriger. Et Jésus dit, à cause d'un certain nombre d'injustices, à cause d'un certain nombre de facteurs sociaux, à cause d'un certain nombre de difficultés, le croyant peut malheureusement baisser dans sa confiance en son Seigneur et en son Dieu. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La promesse de Dieu est une promesse infaillible. Seulement, est-ce que ses enfants sauront persévérer? Voilà 2000 ans que le Christ est ressuscité. Et malgré ça, l'Église continue de se manifester. Alléluia! Ça montre que les enfants de Dieu persévèrent. Et nous sommes de cette famille des enfants de Dieu. Je parlais avec notre sœur Solange Tepo, d'un de ses frères. Et je veux rendre hommage à ce serviteur de Dieu qui est parti au début de la semaine, le pasteur Marc Sunat, qui a été serviteur de Dieu ici en France, dans nos unions d'église, qui a été l'un des pionniers implanteurs d'église. On a appris il y a à peine 3 jours qu'il est parti. Et je rends hommage à ce serviteur de Dieu et qui est mort à cet âge éloigné, mais qui a gardé la foi malgré qu'à la fin de son ministère, il a eu une épreuve de maladie terrible. Mais il est resté fidèle à son Dieu. Alléluia! Et il est parti dans la gloire céleste à cet âge-là. Je rends hommage à tous nos aînés qui, l'âge avançant, gardent la confiance dans leur Seigneur. Vous êtes nos témoins. Alléluia! Vous êtes nos témoins de persévérance. Que Dieu continue de vous bénir dans votre persévérance, chers aînés qui êtes là. Malgré les années passées, malgré les bénédictions et les aléas de la vie, vous gardez votre confiance à votre Dieu. Vous courez la bonne course, vous gardez la foi et vous combattez le bon combat. Et l'apôtre Paul dit, c'est pour vous aussi que cette couronne de victoire est réservée. N'est-ce pas qu'on dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes invités, au travers des témoins vivants que nous sommes nos aînés, nous sommes invités à persévérer dans la foi. Nos aînés qui sont là sont les témoignages vivants qu'on peut garder la foi, qu'on peut persévérer dans la foi. Et Dieu seul sait qu'il y a des âges où la maladie ne vous laisse pas, parce que l'âge n'aide pas non plus. Et plusieurs d'entre vous avec quelques pathologies. Malgré ça, votre confiance en Dieu, votre visage, votre joie, votre engagement pour votre Seigneur, que Dieu vous bénisse les aînés. Pour avoir cette proximité avec vous, je sais, certaines pathologies. Mais si on ne le dit pas, beaucoup ne le savent pas. Parce que votre visage n'est pas un visage d'hypocrite. C'est le visage de votre confiance en Dieu qui vous donne de rayonner du rayonnement que vous avez. Que Dieu vous bénisse pour cela. Quelqu'un disait, je veux rendre témoignage au travers de Tina, à toutes nos sœurs aînées qui sont là, que des fois, vous nous déstabilisez, n'est-ce pas? Malgré le poids de l'âge et le poids de la maladie, vous restez stoïque avec des sourires qui ne sont pas des sourires hypocrites, qui sont la confiance que vous avez en votre Père céleste. Alléluia. Et en parlant de cela, je vois Josiane, je vois Monique, je vois Gertrude, je vois José, toutes ces sœurs aînées. Je vois maman Charlotte, toutes ces sœurs aînées qui êtes là, témoignant de votre confiance dans votre Dieu. Et pourtant, vos vies n'ont pas été si simples. Et vous êtes là, persévérant. Que Dieu vous bénisse. Et que vous restiez comme pour nous des témoins vivants que la foi, c'est possible de persévérer. C'est possible de persévérer. Parce que nous avons cru au Christ ressuscité et vivant. Amen. Vas-y, s'il te plaît. Oui, il y a toujours cette question. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous avons l'assurance que lui, il dit dans Jean chapitre 10 jusqu'au chapitre 13, car ce que tu m'as donné, je l'ai gardé, je les garde dans mes mains et personne ne peut me les arracher. C'est une assurance, c'est une certitude. Il dit, sauf le fils de la perdition qui s'est échappé de ma main de par sa faute à lui-même. On a le récit de la Sainte-Seine et on voit que Jésus, malgré tout, il est Dieu, il sait tout, mais il essaie encore de sauver Judas. Il essaie encore de dire à Judas, tu peux encore changer. Parce qu'il dit, c'est vrai que l'Écriture dit que je dois être livré. Mais peut-être toi, tu peux ne pas être celui qui va me livrer. De toutes les façons, ça va arriver. Mais ce n'est pas obligé que ce soit toi, Judas. Mais Judas n'a pas compris. Parce que la Bible dit que son cœur était déjà vendu. Et qu'il a ouvert la porte de son cœur à l'ennemi de la foi. Et même quand Jésus a dit, celui qui me trompe ce soir, c'est celui qui a trempé son pain avec moi. Et Judas était celui qui avait trempé son pain. Mais les autres disciples n'ont pas compris. Lui, il avait compris. Dès qu'il a compris ça, la Bible dit, il s'est esquivé et il est parti. C'est pour ça qu'il s'est pendu. Parce que quand il a réalisé ce qu'il avait fait, dans sa tête, il ne pouvait pas revenir. Alors que c'était faux. Et l'ennemi, il fait ça. L'ennemi l'avait tellement eu que l'ennemi lui a dit, tu ne peux pas revenir. Ce que tu as fait, c'est tellement grave que tu ne peux pas te racheter. Or, le brigand à la croix, il s'est racheté. Donc, ça prouve que Judas aurait pu se racheter. Parce que même ce brigand à la croix est rentré au paradis. Mais Judas s'est laissé spolier par l'ennemi de la foi qui lui a dit, le retour, pense même pas à ça, ce n'est pas possible. Et souvent, l'ennemi fait ça dans la foi des chrétiens. C'est pas possible, ça. Toi, tu es une bonne chrétienne et tu as fait ça. Tu crois que ton Dieu va te pardonner? Reste dans ton coin, ne va plus à l'église, reste là. Tu n'es même pas une bonne chrétienne, tu es une mauvaise chrétienne, tu es un mauvais chrétien. Et ça nous chiffonne. Et malheureusement, on s'isole. Et lui, il sait que s'il nous isole, c'est là qu'il nous a, en fait. Il a isolé Judas. Et Judas étant isolé, il est allé et il s'est pendu. Que Dieu nous aide. Jésus plaide que nous soyons conscients que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et que la persévérance est possible. On appelle ça la persévérance des élus. C'est-à-dire Dieu, par son esprit, a mis quelque chose en nous qui nous donne de persévérer. Et l'ennemi, il veut nous faire croire le contraire. Il a tort, il a menti. La Bible dit quoi? Dans Éphésiens, dans Colossiens, qu'il a triomphé publiquement de lui et qu'il a livré en spectacle et qu'il a vaincu l'ennemi de notre foi. Donc celui qu'on doit écouter, ce n'est pas l'ennemi de la foi. C'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus lui-même a été tenté, Luc chapitre 4, à plusieurs reprises. Et l'ennemi, il ne sort pas des paroles ordinaires, il sort la parole de Dieu. Tout ce qu'il a dit à Jésus, c'est sorti des textes bibliques. Et Jésus dit, il est aussi écrit. Dans les âmes spirituelles, on dit les âmes défensives, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin, en tant que chrétiens, d'être enrichis, nourris, pétris. On ne peut pas se rassasier de connaître la parole de Dieu parce que c'est celle-là qui nous donne la force de persévérer et de tenir bon devant l'adversité. Parce que l'ennemi va toujours chuchoter des contre-vérités ou des demi-vérités de l'évangile ou de la parole. Il va toujours essayer de tordre pour son profit à lui. Et si on connaît, on dit, oula, j'étais démasqué. Ce n'est pas ce que la parole dit. Amen. Vas-y. Ouais, que Dieu nous aide. Les ennemis de notre foi, la foi, c'est cette ferme assurance qu'on a dans le Seigneur. Oui, moi je sais en qui j'ai cru, car lui je l'ai connu, il est toujours avec moi. Alléluia. On va chanter ça tout à l'heure. C'est ça notre foi. Moi je sais en qui j'ai cru. Les ennemis de notre foi, c'est notre raisonnement humain. Le raisonnement humain n'est pas un handicap, non, c'est une grâce de Dieu. Mais si on l'utilise à tort contre Dieu, alors il devient un ennemi. La chair, c'est le principe de l'homme sans Dieu. Et nous, on dit qu'on n'est plus des hommes sans Dieu. Et pourtant, des fois, on le laisse nous manipuler comme si on était des hommes et des femmes sans Dieu. C'est ça le principe de la chair. Que Dieu nous aide. Nous avons des choix à faire. Et ce choix, c'est de rester fidèle à notre Dieu. Mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié. Selon 1 Corinthiens 6, 11. Nous sommes de ceux qui marchons avec le Seigneur. Vas-y, s'il te plaît. Oui. Mais nous avons été justifiés, sanctifiés. Je suis une nouvelle créature et je choisis de vivre selon l'Esprit. C'est un choix à faire. Je vis selon l'Esprit. Je suis une nouvelle créature. Alléluia. C'est un privilège, c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. L'ennemi de notre foi, il s'appelle Satan, il nous attaque. C'est pas une vue de l'esprit, c'est vrai. Satan existe, c'est un esprit puissant, mais pas plus puissant que le Seigneur. Il dit, car celui qui est dans le monde n'est pas plus fort que moi. Moi, j'ai vaincu celui qui est dans le monde, j'ai triomphé de lui. Nous ne devons pas omnibuler par Satan, non, mais nous devons savoir qu'il existe et qu'il nous titille. Mais nous avons la victoire en Christ. Lui, il va essayer de saper notre foi par des tactiques. C'est pour ça qu'il s'appelle le malin, celui qui est malicieux, qui ne cherche pas à nous confronter de face, mais qui cherche les failles. Qui cherche les failles, les demi-vérités pour se dissimuler. On présente Satan avec les cornes. S'il avait des cornes, on aurait tous peur. Il vient de façon, la Bible dit qu'il se transforme en ange de lumière. Il vient déguisé en beau alors qu'il est le mauvais. C'est pour ça qu'on a l'expression un loup déguisé en brebis. Il vient au milieu de la bergerie et là, ravage. Mais Jésus dit, je vous ai donné de quoi le discerner, de sentir son odeur de loin et de lui dire, j'étais démasqué au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. Soyons convaincus que dans nos épreuves, nos difficultés, Satan, il va chercher. On dit que nos difficultés, nos épreuves sont le jardin potager préféré de l'ennemi. C'est-à-dire que quand nous sommes dans les épreuves, c'est là que lui vient, parce qu'il sait que là, nous sommes affaiblis. Et il veut travailler à saper notre foi. Et c'est dans l'épreuve que nous devons dire, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. C'est lui qui a dit, ce que tu m'as donné, je les ai gardés dans ma main et personne ne peut me les arracher. C'est lui qui a dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui a dit, car celui qui est dans le monde, c'est vrai, il est puissant, mais je l'ai vaincu. Il dit, ce qui a vaincu celui qui est dans le monde, c'est votre foi, c'est votre confiance en moi. Aussi, tenons ferme, comme notre maître, avec le bouclier de la foi. Éphésiens 6, verset 16, le bouclier de la foi, cette confiance en Dieu. Terminons avec cette... Vas-y encore. Encore. Non, reviens, c'est toi qui avais raison. La dernière slide. C'est une conclusion qui a été écrite et que j'ai reprise de Henri Opéwal, qui est pasteur de l'AUI maintenant à la retraite, qui a été président de notre union d'église pendant quelques années. Vas-y encore, c'est jusqu'à la fin, c'est vrai, j'étais pas mal. C'est la dernière slide. Voilà. Affirmer la résurrection de façon biblique dans la présentation de l'évangile, c'est annoncer non seulement que Christ est mort pour nos péchés, mais parce qu'il vit, nous vivons aussi, et cela en véritable nouveauté de vie, puisqu'il vit en nous. Amen. Romains 6, 3 à 4. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Ainsi donc, après avoir célébré Pâques, glorifions-nous en effet de la croix de Christ. Christ ressuscité, vainqueur et qui revient dans la gloire, qui nous a déjà fait entrer par la foi dans son royaume, qui nous a déjà donné la vie éternelle. Et que nous puissions dire, comme Paul encore, que ce soit non seulement notre prière, mais comme lui, notre aspiration profonde, Christ est ressuscité, il est réellement ressuscité. Alors nous sommes libérés de la puissance du péché afin de pouvoir marcher en nouveauté de vie par la puissance de sa résurrection et à sa gloire. Amen. J'aimerais que le groupe de louanges vienne et que nous puissions chanter « Oui, moi je sais en qui j'ai cru, car lui, je l'ai connu. Il est toujours avec moi. » Que Dieu nous bénisse ensemble.
Si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, je lui dirais arrière d'ici. Ouh, oui, moi je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru.